d'économie.
L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec d'autres agences œuvrant aux frontières, c'est l'une des recommandations de la rencontre des experts en douane de l'Union africaine qui s'est clôturée hier à Kinshasa. À la une également, la relance agricole dans les provinces de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et de la Mongala, avec un premier lot de coqs et des boucs, le Parsa veut augmenter la production animale des vaches de cette contrée. Et puis la route Niania-Ifiro n'est toujours pas réhabilitée. Les travaux durent depuis 6 ans et l'évacuation des produits de première nécessité et manufacturés en provenance des autres provinces pose problème. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 3 jours d'échanges et partages, les travaux des experts en douane en prélude de la 7e réunion sous comité de directeurs généraux de douane de l'Union africaine se sont clôturés hier. Les participants venus de différents pays africains ont recommandé entre autres l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec d'autres agences œuvrant aux frontières. Deoru Guiza, DG de la Direction générale de douane et accises de la RDC, revient sur les autres recommandations. Ces propos sont recueillis par Nadine Foulan Simba.
Concernant la gestion coordonnée des frontières, vous prenez au niveau national la coordination par la douane des organismes ou agences gouvernementaux œuvrant aux frontières en veillant à l'interconnexion de leurs systèmes d'information respectifs. Elle est donc parfaitement en phase avec les bonnes pratiques internationales en matière de gestion coordonnée des frontières. Dans vos délibérations, vous avez également abordé les sujets relatifs à la facilitation du commerce et avez notamment recommandé la mise en place des comités nationaux de facilitation des échanges. Ici, s'agissant de la mise en œuvre du guichet unique, vos conclusions proposent la mise en place d'un guichet unique automatisé en lieu et place d'un guichet unique manuel. Toujours dans vos propositions, vous accordez une grande importance au partenariat public-privé et au modèle opérationnel public à financer pour la facilitation du commerce. Pour ce qui est des questions liées à la sécurité, celle-ci devrait, comme il a été fait remarquer, être traitée concomitamment avec celles liées à l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec d'autres agences ou organismes œuvrant aux frontières. En effet, l'interconnexion avec des secteurs autres que la douane pourrait conduire nos pays respectifs à l'atteinte des objectifs d'intégration dans le temps imparti. Quant au lancement de la zone de libre-échange continentale en 2017, j'apprécie les différentes propositions formulées et surtout celles qui concernent le lancement dans un proche avenir des négociations à cette fin.
Notez qu'après la clôture de la réunion des experts, il s'est ouvert ce jeudi la réunion de directeurs généraux de douane de l'Union africaine. Ces directeurs vont valider et adopter les recommandations formulées par les experts en douane. À cette occasion, le ministre de Finances de la RDC est revenu sur quelques réformes initiées par la DGDA, telles que recommandées par l'Organisation mondiale de douane. Les propos de Yav Moulang, ministre des Finances, sont recueillis par Nadine Foulan Simba.
En plus de l'action d'élimination des barrières au niveau continental et sous-régional, une politique bilatérale, notamment entre les États frontaliers, devrait également être encouragée. C'est dans cette logique que l'administration douanière congolaise a signé de nombreux accords d'assistance mutuelle administrative avec certains pays frontaliers. Je ne saurais terminer ce mot sans signaler qu'anticipant sur les thèmes des présentes assises, la République démocratique du Congo a déjà pris un certain nombre de mesures pour assainir les procédures douanières à ses frontières. Il en est ainsi de la signature depuis 2002 d'un décret par le président de la République portant limitation du nombre de services habilités à exercer aux frontières. Et au niveau du processus proprement dit de dédouanement, la direction des douanes et accises s'attelle depuis 2003 avec l'appui du gouvernement à l'implantation des guichets uniques de dédouanement dans tous les bureaux de douane. L'objectif étant de consolider l'ensemble des paiements effectués à l'occasion du dédouanement des marchandises. Bien plus, la douane congolaise a entrepris l'informatisation de tous ses bureaux de manière à assurer la facilitation et augmenter la fluidité des mouvements des marchandises à nos frontières, tel qu'exigé par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges.
Et nous vous proposons ce soir un zoom sur la douane.
La douane est une administration fiscale chargée notamment du contrôle des marchandises à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire. Son activité est réglementée par le droit national, mais aussi par des accords internationaux. Elle peut, par ailleurs, assurer d'autres missions économiques, telles que la lutte contre les pratiques déloyales, la mise en place des barrières douanières non tarifaires et aussi la mission de protection et sécurité. En RDC, c'est la Direction générale des douanes et excises DGDA qui s'en charge. Pour la petite histoire, l'administration douanière congolaise remonte dès l'époque coloniale où une structure douanière fut mise sur pied pour permettre à l'État de réaliser des recettes nécessaires à l'occupation et à l'exploitation du territoire. Après l'indépendance en 1960, l'administration douanière congolaise a été mise sous tutelle du ministère des Finances sous l'appellation de l'administration de douanes et excises ADA en sigle. Celle-ci fonctionnait comme une direction de ce ministère. Ensuite, fut créée en 1979 l'Office de douanes et excises en sigle OFIDA. Et enfin, au terme des prescrits du décret numéro 03 décembre 2009, la Direction générale des douanes et excises DGDA fut créée. La DGDA a comme mission de perfectionner les recouvrements et versements au trésor public, d'imaginer des nouvelles procédures et perceptions, de minimiser les pertes et fraudes dans le domaine de douane, d'élargir les champs de perception et de contrôle, de moderniser le travail et d'avoir une douane de proximité.
Le PARSA, projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, offre des géniteurs sains et améliorés aux petits éleveurs des provinces de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et de la Mongala. Un premier lot de coqs et des boucs est arrivé lundi à Guémena pour être distribué aux éleveurs. Cette action du PARSA a pour but d'augmenter la production animale d'élevage de cette contrée. Dominique Colombi nous en parle.
Ces géniteurs, 900 coqs et 250 boucs viennent de l'Ouganda. Ces coqs et boucs qui sont sains et des races améliorées vont être distribués aux petits éleveurs pour augmenter leur production animale. Pour Mme Elali Kashratale, médecin vétérinaire qui supervise les volets élevage dans les projets PASA, cette action entre dans le cadre de la concrétisation de ces projets. Tout a été préparé pour que ces géniteurs coqs et boucs se développent et répondent aux besoins des éleveurs. Au Nord-Équateur, ces 10 dernières années ont été marquées par des épidémies des animaux domestiques qui ont sérieusement décimé les cheptels de la volaille et des petits ruminants. Pour ce faire, 2 campagnes de vaccination ont été organisées en vue d'assainir les milieux avant l'arrivée de ces géniteurs des races améliorées, notamment la vaccination contre la maladie des nuits pastelles qui attaque les petits ruminants. Une autre est en cours et des kits de médicaments essentiels contre les maladies endémiques qui attaquent les petits ruminants et la volaille ont été distribués aux vétérinaires des provinces de la Mongala, du Nord et du Sud-Ubangi. Après ces premiers lots de géniteurs, un autre de 1800 coqs et de 500 boucs est attendu. Mbandaka, Dominique Welombimonga Pangé, Écho d'économie.
En Bougimaï, le prix du maïs se maintient toujours au-dessus de 2000 francs congolais dans les marchés urbains. Le gouvernement provincial se déploie pour parvenir à la baisse du prix de cette denrée de première nécessité au Kasaï oriental. Nous en parlons avec vous, Chris Mukand.
À partir de ce mercredi, il est fait état d'une légère révision à la baisse. La mesure, ce bol d'environ 3 kilos, se vend entre 2000 et 2100 francs congolais. La semaine dernière, cette quantité s'est vendue jusqu'à 2300, voire 2400 francs congolais. Quand les marchés sont inondés, ce produit coûte généralement 1000 francs congolais, parfois moins. Cette petite baisse n'est pas très ressentie par les ménagères qui peinent toujours à nourrir leur famille et société. Face à cette situation, le ministre provincial de l'économie a réuni lundi le représentant des tenanciers des dépôts de maïs. Ces derniers sont souvent pointé du doigt comme auteur de la spéculation et de la rétention des stocks de maïs avec comme conséquence la hausse de prix. De commun accord, il a été décidé d'entrer en mesure. Particulièrement, le ministre Emmanuel Mouiloukoussa demande instamment la suppression des intermédiaires, des dames dénommées Djamani. Celles-ci s'accaparent à partir de camions des lots de maïs apportés par les vendeurs, règlent leurs factures avec les transporteurs et restent vendre à leur prix, tout en insérant bien entendu dans le prix des ventes toutes les charges supportées. Et c'est là qu'elles abuseraient en voulant gagner plus que les frais engagés. Les responsables des dépôts de maïs affirment appliquer les mesures du ministre, ce qui donne lieu à cette légère baisse. Toutefois, l'opinion est d'avis que la solution efficace à la pénurie des maïs et à la spéculation de prix qui s'ensuit passe par une production consistante des maïs par le gouvernement provincial. Une fois les marchés inondés, la baisse de prix se ferait de soi. Mbouji Maï, Chris Mukonde, Écho d'économie.
Nous sommes dans la nouvelle province du Haut-Ouélé où les travaux de réhabilitation de la route Niania-Isiro, longue de 235 km, n'évoluent toujours pas depuis 6 ans. La dernière relance de ces travaux au début de cette année n'a duré que 3 mois avant de s'arrêter. Aujourd'hui, les 28 km refaits lors de la relance commencent à s'abîmer pendant que le gouvernement provincial dispose depuis juillet dernier de 100 000 litres de gasoil, une dotation du gouvernement central pour ces travaux. Mais qu'est-ce qui bloque l'évolution de ces travaux en Seine-Massois?
5 mois aujourd'hui depuis que ces travaux sont suspendus. Avec l'intensification des pluies, l'état de la route se dégrade davantage. La circulation est devenue difficile. Il faut 2 à 3 semaines pour parcourir Niania et Siro. Pour le secrétaire exécutif de la société civile de la province du Haut-Ouélé, il manque une volonté politique de la part du gouvernement congolais. Gary Lituta.
Ça devient même pour nous, on ne comprend plus rien. Le gouvernement central avait débloqué 500 fuites de carburant qui se retrouvent présentement chez Bakisangane. Nous ne savons même pas le sort de ce carburant-là et si c'est utilisé ou comment.
Pour le gouverneur de la province orientale de Mambré, la rétrocession attendue du Fonds national d'entretien routier depuis mai dernier retarde la reprise de ses travaux. Jean Bamanissa Saïdi.
Le FONER est redevable vis-à-vis de la province depuis le mois de mai. Il fallait à peu près 105 millions de francs pour relancer les travaux. Donc on est à ce niveau où nous attendons qu'il soit mis à disposition ces montants et donc cela nous bloque pour intervenir.
Notez que Niania Isiro est une route d'intérêt économique capital. Elle ravitaille les territoires de Rungu et Wamba en produits de première nécessité et manufacturés en provenance de Kisangani, de l'Ituri et de Beni Butembo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Mimi Kindou Acoustique est suivie par vous. Merci.